du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, un mot seulement de la parabole du Seigneur, parce que je ne saurais faire abstraction de l'Évangile pour en venir directement à cette somptueuse épître de saint Paul. Dans la parabole des oubliés de la 11e heure que nous commentions dimanche dernier, deux faits nous sautaient aux yeux, nous invitant à deux enseignements, à tirer deux enseignements. Le premier, c'est que chaque oublié, quel qu'il soit, et quelle que soit l'heure à laquelle il est entré au service du Maître, touche un salaire qui est identique aux autres. Et nous tirions comme enseignement le fait qu'il était parfaitement vain de se glorifier de l'heure à laquelle nous étions mis au service du Seigneur, d'une part, et parfaitement vain d'autre part, parfaitement ridicule, de se comparer aux autres qui sont venus soit avant nous, soit après nous. Facile comme enseignement. Deuxième remarque que j'avais fait, deuxième enseignement à en tirer, le maître de la vigne, tout en respectant le juste salaire auquel il s'était engagé auprès des ouvriers des premières heures, faisait montre de magnanimité et comment auprès de ceux qui s'étaient engagés une heure seulement avant le coucher du soleil. Je vous proposais de nous identifier, et c'était une interprétation assez peu commune, plutôt que de nous identifier aux ouvriers de la vigne, de nous identifier plutôt au maître de la vigne, qui faisait preuve de magnanimité, c'est-à-dire en fait de miséricorde. Il acceptait de ne pas tenir compte de l'heure d'engagement, mais tout simplement de la générosité avec laquelle on se met dans la vigne. Il y a, dans cette parabole d'aujourd'hui, quelque chose de semblable, et une interprétation qu'on n'a pas l'habitude de faire non plus, me semble-t-il, c'est-à-dire une perspective qui n'est pas habituelle, plutôt que de regarder qui nous sommes, parmi ceux qui reçoivent la parole de Dieu. Sommes-nous la bonne terre? Sommes-nous celle qui est mêlée des charges, de charbon? Sommes-nous celle qui est pierreuse? Peu importe, ne nous comparons pas plus que la semaine dernière, il ne convenait pas de se comparer entre les ouvriers venus de la première, la deuxième, la troisième et la onzième heure. Peu importe. Ce que je vous invite à regarder dans cette parabole du Seigneur, c'est là encore la conduite de celui qui sème, comme celui qui, la semaine dernière, était le maître de la vigne. Nous nous mettons dans sa peau et nous remarquons une chose, c'est là encore sa magnanimité, car ce semeur est un peu particulier. Lorsqu'on est un semeur ordinaire, il est tout à fait normal qu'on prenne le risque, en semant dans la bonne terre, que quelques graines se mettent le long du chemin ou là où il ne faudrait pas. Et cela ne coûte pas bien cher par rapport à la quantité de graines que l'on jette à droite et à gauche. Mais lorsqu'on sait que la graine en question est la parole de Dieu elle-même, on sait combien elle est précieuse, et l'on voit alors la magnanimité de celui qui jette la parole de Dieu à droite et à gauche, qui lance sa parole, c'est Dieu le Père, qui lance son verbe de droite et de gauche. Il est prêt même à risquer que son verbe tombe là où il ne faudrait pas. Il prend un risque, le Père éternel, en incarnant son Fils, en jetant cette graine toute puissante, mais humble, parce que derrière les traits humains, au milieu de cette populace, qui est prêt à tout, à le déchiqueter pour ce qui concerne la terre mêlée de charbon, ou qui n'est pas du tout réceptive pour ce qui concerne cette terre dans laquelle il y a trop de pierres pour que la graine puisse germer. Vous voyez donc que, encore une fois, je crois que, en lisant d'une manière un peu singulière les paraboles du Seigneur, nous arrivons à comprendre, encore et toujours, qu'il nous faut imiter la magnanimité du Père éternel. Et je vous disais que c'était une sorte de prémisse à ce carême dans lequel nous allons nous engager le temps presse, dans maintenant 10 jours, il fallait se préparer à vivre, non seulement parce que le pape l'a décrété, mais parce que c'est ce que Dieu a voulu, une année de miséricorde, un carême de miséricorde. Mettons-nous donc bien en tête que tous nos efforts de carême, tous nos petits sacrifices, notre ascèse, si tant est qu'on en ait un peu, notre prière, nous tenons 5 minutes et nous nous prenons pour un grand saint. Bref, tous ces efforts-là, il faudra les mettre à la remorque ou en vue de la miséricorde, l'exercice de la miséricorde. Ce n'est pas le sacrifice que je veux, c'est la miséricorde. Je ferme donc cette considération de l'Évangile et j'en viens, assurez-vous, je serai assez bref, à cette magnifique épître de saint Paul, du moins ce CV qu'il donne de lui-même, en réalité, voilà quelqu'un qui est capable de se vendre et comment, montrant toutes les épreuves par lesquelles il a accepté de passer, montrant tous les privilèges insignes par lesquels il a été gratifié de la part de Dieu, et cet apôtre-là résume, incarne en lui-même ce que doit être un apôtre. Et nous devons tous être des petits saints Paul. Alors, que devons-nous tirer comme enseignement de cette présentation grandiloquente et qui, à l'oreille du monde ou aux yeux du monde, ne reçoit que sarcasme et raillerie? Parce qu'on prend saint Paul pour un orgueilleux, voilà tout. Quelqu'un qui est impudique, parce qu'il va jusqu'à montrer tout ce que le Seigneur a fait pour lui, quelqu'un qui vraiment n'est d'aucune discrétion, c'est bien Saul de Tarse, le persécuteur, qui l'a ramené tout le temps, qui est toujours là en train de, à peine converti au christianisme, de faire exactement la même chose, de la ramener. Évidemment, il y a plus que cela dans l'épître de saint Paul et dans la présentation qu'il fait de lui-même. Que se passe-t-il en réalité? Eh bien, ce témoignage que saint Paul rend lui-même, en réalité, il faut bien percevoir que c'est un témoignage que Jésus rend à lui-même, Jésus. Ce langage que tient saint Paul aujourd'hui, en réalité, c'est Jésus qui devrait le tenir à plus forte raison. De quoi s'agit-il? Jésus, dans son humanité, a été totalement possédé du Saint-Esprit. C'est très étonnant que le Verbe éternel ait besoin que son humanité, qu'il assume lui-même, soit possédé du Saint-Esprit. Or, c'est ce que l'Évangile nous apprend en long, en large et en travers. Il grandissait en taille, en grâce et en sagesse. C'est en grâce, c'est-à-dire qu'il recevait de plus en plus de Saint-Esprit. L'humanité de Jésus, pleinement possédée par le Saint-Esprit dès le début, a connu un accroissement de soumission, de possession par le Saint-Esprit. N'essayez pas d'aller plus avant dans la contemplation de ce mystère, ou plutôt contempler, n'essayez pas de raisonner, c'est mort. Il est impossible d'aller plus loin dans la considération de ce mystère insigne. Mais où est-ce que je veux en venir? Saint Paul lui-même, en réalité, constate que le Saint-Esprit l'a totalement possédé. Et le possédant totalement, parce qu'il a été la bonne terre, parce qu'il a accepté petit à petit, parce que tout cela a été très progressif chez Saul de Tarse, l'intransigeant, le taré du judaïsme, l'extrémiste absolu qui est prêt à faire couler le sang, celui de Saint-Étienne, à qui l'on n'a rien à reprocher, pour soi-disant la gloire de Dieu, en réalité pour sa propre gloire, ce sol-là, qui n'était au début qu'une terre mêlée de pierres, mêlée de ronces, pour reprendre les figures de l'Évangile, ce sol-là, petit à petit, a accepté de devenir la bonne terre en écartant tous les obstacles et en se laissant féconder, et comment? Par le Saint-Esprit. Et dès lors, que s'est-il passé? C'est cela à quoi le Seigneur nous appelle, mes frères. C'est ce qui nous faudra vivre, tant soit peu, pendant ce carême. Nous laisser posséder par le Saint-Esprit, écartant un peu les soucis de la vie quotidienne, les choses qui, de secondaire qu'elles sont, revendiquent le premier rang, voyez comme elles sont orgueilleuses, ces petites choses-là, dont vous voyez très bien de quoi je parle, eh bien, il faudra se laisser posséder par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce qu'une fois que le Saint-Esprit est en nous, alors il nous introduit, il nous configure à Jésus-Christ, et il nous introduit au sein même de la Trinité, dans les relations trinitaires. Je répète, le Saint-Esprit, nous possédant toujours plus, nous configure à Jésus, le Fils éternel du Père, et nous fait alors entrer dans une relation avec le Père éternel, qui est une continuation des relations, des processions éternelles qui existent entre le Père et le Fils. Qu'est-ce que cela, sinon entrer, j'ose le terme, dans la Trinité? Si saint Paul nous parle avec tellement de véhémence, si ce qu'il raconte est tellement incroyable au plan humain, c'est qu'en réalité, saint Paul est en train de nous expliquer qu'il a vécu ce que Dieu seul peut vivre. Il est impossible humainement d'affronter tout ce que saint Paul a affronté. Il est impossible humainement de porter tant de fruits. Un petit homme, encore une fois un petit Tarsiote, qui fait le tour de la Méditerranée à plusieurs reprises et qui convertit en quelques années, pas en quelques décennies, en quelques années seulement, autant de monde, qui amène au Christ tant de personnes païennes, juives, si peu réceptives, pour avoir eu une œuvre telle, il fallait qu'il soit véritablement habité par la Trinité tout entière. Le Saint-Esprit s'empare de lui, le configure à Jésus-Christ et le ramène au Père. Il est entré dans les processions éternelles avec ce sac et ressac, avec ce que l'on appelle les relations de réciprocité entre les personnes divines, et alors il est capable de tonitruer la parole de Dieu, il est capable d'abattre tous les obstacles, il est capable de surmonter toutes les montagnes. Mes frères, c'est véritablement ce à quoi nous sommes appelés. Il ne s'agit pas d'un conte de fées, il s'agit de l'histoire réelle, d'un homme qui, pour avoir des qualités, avait, je crois, davantage de défauts encore, mais qui, parce qu'il s'est abandonné à Dieu, s'est vu habité par la Trinité et continuer l'œuvre trinitaire. Si votre ambition n'est pas celle-ci, mes frères, vous n'avez rien à faire. Je vous le dis de but en blanc, je me réveille en même temps que je vous réveille, et ce qui va nous permettre d'entrer précisément dans ces relations trinitaires à notre tour, et de cesser d'être mesquins, mais enfin d'être chrétiens, ça rime, mais ça n'a rien à voir, c'est de communier aujourd'hui à cette Eucharistie, nous recevons Jésus, le Saint-Esprit nous configure à Jésus, et nous entrons dans ces relations trinitaires encore une fois, nous pouvons alors œuvrer sans aucune crainte de ce monde qui, plus qu'il nous veut du mal, je pense, ne sait pas du tout de quoi il s'agit, ne comprend pas, ne veut pas comprendre, parce qu'il redoute effectivement qu'en comprenant, il faille changer de style de vie, peu importe, nous serons alors habités par la Trinité, et je le répète, aucun obstacle ne sera capable de triompher de nous, pas plus que saint Paul, le petit saule de Tarse, ne s'est vu écrasé par quiconque, y compris lorsque sur le bio, on lui a coupé sa tête pleine de très belles idées et totalement acquise à la cause de la Trinité. Je pense que ces choses-là sont exaltantes, mes frères. C'est cela la morale chrétienne. Ce n'est pas d'être dans les clous, d'essayer de ne pas être en dehors, plutôt. Ce n'est pas d'essayer de se tenir froid, tiède. On sait ce que Dieu fait des tièdes. Je te vomirai de ma bouche parce que tu es tiède. Il faut que nous soyons partie prenante de la Trinité. Déifié, rien de moins. Et cela commence sur cette terre et même dès aujourd'hui. Si vous ne pouvez pas accéder à la communion eucharistique, de grâce, ayez ce réflexe salvifique, salutaire. Vous pourrez alors entrer dans les relations trinitaires, de communier spirituellement, demander à Dieu d'obtenir les fruits qui lui plairont, de sorte que vous puissiez véritablement devenir une bombe humaine, alors dans le bon sens du terme, dans le sens paulinien du terme, paulinien, deuxième version. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.